Vous écoutez France Culture.
Hashtag politique. Comment percevez-vous votre identité numérique ? Vous avez 5 minutes.
J'ai toujours pas compris ce que c'est que l'identité numérique. Est-ce que c'est la toute première forme d'identité commune ? Est-ce que c'est des pins ou des galons qu'on accrocherait sur nos vêtements et qui seraient comme l'image de nous-mêmes ? Est-ce que c'est un prolongement de nous-mêmes fait avec des chiffres et des 1 et des 0 ? Est-ce que c'est quelque chose qui est contrôlé par des ordinateurs ? Enfin, je sais pas trop, quoi. C'est quoi l'identité numérique ?
Bon alors, mon identité en ligne, en colonne, en ce que vous voulez, mais elle n'existe pas. Je n'en ai rien à foutre de mon identité en ligne.
Oh merde.
Je suis vraiment ravi que tu sois là pour nous dire ça.
Il faut avoir du courage pour faire ce que t'as fait.
Ceci dit, les mecs capables de faire un coup comme ça, je te les compte sur les doigts de la main.
Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?
Continuez, je vous en prie.
Chapitre 1, la peur au ventre.
Moi, l'identité numérique, j'essaie de la contraindre au minimum possible. J'ai l'impression que je peux pas la contrôler. J'essaie d'en donner le moins possible pour ne pas pouvoir avoir de regrets plus tard, en fait.
J'essaie, bien sûr, de cadrer, de centrer cette identité numérique, tout ce que je peux publier ou tout ce que je peux... partout où je peux laisser ma trace, en tout cas. Mais j'ai une posture vraiment très réaliste où je sais très bien que quiconque peut savoir des choses sur moi ou savoir ce qu'il veut savoir, puisque j'ai donné de toute façon mes informations à Google, à Facebook, à Apple, etc. Et ça, je me fais pas trop d'idées dessus, et même si j'essaye de nettoyer un peu des fois ou de regarder, je sais que de toute façon, on pourra trouver ce qu'on veut.
Je sens beaucoup de peur en toi. La peur est le chemin du côté obscur. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance.
Chapitre 2. L'impossible maîtrise de son image.
En fait, je pensais que j'étais largement capable et à même de pouvoir contrôler absolument tout ce qui sortait sur moi, notamment que ce soit sur Facebook ou parmi mes mails, mais je me suis rendu compte que... C'était un peu naïf comme pensée.
Mais je me suis inscrit avec une stratégie, avec une règle d'or que je m'étais juré de respecter, qui était que je n'accepterais que des amis proches sur Facebook.
L'espoir fait vivre.
Mon identité numérique, depuis que je suis étudiant, en fait, elle se découple un peu en deux niveaux. Hein. Il y a une identité plutôt professionnelle ou semi-professionnelle et plutôt... plutôt un usage privé du net ou des applications...
Jusqu'au jour où c'est ma directrice elle-même qui m'a demandé en ami sur Facebook. Et je me suis créé deux comptes différents. Le compte réservé à mes amis, avec un avatar, et le compte réservé à mes réseaux professionnels, avec ma véritable identité.
Tu vois ça, c'est le monde dans lequel je voudrais vivre un jour.
Sauf que dans la vie réelle, si je puis dire, la frontière entre ce qui relève du monde du travail et ce qui relève de la vie privée n'est pas aussi franche que ça. Et là, ma règle d'or ne fonctionnait plus du tout. Donc dernièrement, je me suis dit, finalement, j'allais refusionner mes deux comptes afin d'en terminer avec cette schizophrénie numérique.
C'est mieux comme ça, mon poussin ?
Je suis la plaque tournante d'un immense réseau social. Quand je fais circuler une info, elle va très loin.
En fait, on voit que l'identité en ligne, elle est relationnelle. C'est-à-dire qu'elle est construite par rapport aux relations que j'entretiens avec les autres.
Mais, alors que dans la vie réelle, entre guillemets, on est toujours maître de notre présentation de soi, sur Facebook, ce sont les autres qui contribuent autant que nous à cette mise en scène de notre identité. C'est-à-dire que la manière dont un de mes amis va me taguer sur une photo qui va me mettre ou non en valeur, eh bien, participe autant que ce que l'on dit à l'image que l'on renvoie aux autres.
Chapitre 3. Pseudonyme. Choisis qui tu es.
Oui, j'ai un pseudo, qui est le pseudo de ma première adresse mail, que j'ai créée, c'était quoi, 99-2000.
Bon, un surnom, Thor Viking, qui reste ?
Moi, mon identité sur Internet, elle a vraiment commencé à partir du moment où j'ai utilisé hotmail.com.
C'est aussi génial.
Il fallait un peu rivaliser d'ingéniosité, trouver une adresse cool pour les copains, pour te trouver sur MSN.
Eh ben, on peut avoir un pseudo ridicule. Par exemple, la choute lolotte, ou par exemple, princesse Babi, tout ça j'en connais, ou par exemple, Boot 75.
Et bon, bah, je me suis dit, restons quelqu'un de normal. On va mettre mon nom et mon prénom @hotmail.com.
Bon, bah, ouais, mais n'empêche que le mec qui a son adresse sérieuse, t'y penses plus, tu sais plus. Est-ce que c'est Olivier.Maillard ? Est-ce que c'est Olivier Maillard tout attaché ? Olivier-du-6 ? Franchement, c'est chiant. Vaut mieux dire Boot 75. Bon.
Et donc, voilà, j'arrive sur le site d'inscription, je mets mon nom, mon prénom. Malheureusement, l'adresse était déjà prise, à croire que mes noms et prénoms n'étaient pas si originaux que ça. Voilà, j'ai un peu tout essayé, j'ai inversé, j'ai mis prénom, nom, nom, prénom, j'ai mis des initiales, enfin j'ai un peu tout essayé. Rien n'a marché et du coup, je me suis rétracté sur une de mes passions et rien à voir. Du coup, mon adresse a fini par j'aime le hand, tout simplement parce que j'aimais le handball.
Oh, ça m'a l'air d'être l'idée du siècle.
Pour moi, l'identité numérique, c'est d'abord quelque chose qui est socialement construit. C'est-à-dire que c'est bien sûr une part de moi, ce que je suis, mais c'est aussi, et peut-être, surtout, ce que je souhaite qu'il me représente dans l'espace social.
J'ai d'abord commencé par Jibagia. En cinquième, parce que j'étais fan de Duel C.
Et je me suis créé un compte Twitter il y a peu de temps, il y a quelques mois. Et j'ai choisi de le créer en commun avec un très bon ami. Et donc du coup, on a fait un mélange de nos pseudos, des pseudos qu'on avait l'habitude d'utiliser mutuellement.
Je suis vraiment content que vous soyez là. On va se sentir moins seul.
Il n'y a aucun de nos noms qui n'apparaissent directement sur ce compte.
Je m'appelle Bond. James Bond.
T'es un menteur, toi ?
Ça va, les gars, je me présente. Marc !
Menteur !
D'accord, je vous donne une dernière chance.
Je suis Godefroy Le Hardy. Je suis né en l'an de grâce 1079.
Oh, le nom, c'est pas important.
Ouais, tu as raison. Je vais réfléchir à ça.
Chapitre 4. Des identités multiples assumées. Yeah.
J'ai un compte Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Google+, Gmail, Deezer et SoundCloud.
Moi, Facebook, je trouve ça génial parce que moi, je me sens pas avoir une identité, je suis pas Mathieu, qui est monolithique.
Et donc, du coup, ça passe par la diversité de mes activités en ligne. Ce que je fais sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, le type de blog que je lis, les marque-pages que je partage.
Une des originalités de Facebook, c'est de permettre aux utilisateurs de faire se rencontrer des mondes sociaux qui ne cohabitent pas dans la vie réelle, entre guillemets.
Je m'intéresse à plein de trucs différents et sur Facebook, je suis en contact avec des gens qui aiment le foot et sur Facebook, qui postent des articles sur le foot. Je suis en contact avec des gens qui aiment la politique et je peux voir des choses sur la politique. Je suis en contact avec des gens qui aiment le MMA. Un sujet dont on parle jamais dans les médias, mais via Facebook, je suis des trucs qui se passent. Et voilà.
On se demande plutôt si Facebook ne promeut pas une plus grande tolérance vis-à-vis de la présentation de soi. C'est-à-dire que, à force de voir ses collègues parler de leur soirée sur Facebook, eh bien, au final, est-ce que on n'a pas une conscience plus importante que notre image sociale, notre face, elle est composée de différentes facettes. Et donc, on développe peut-être une plus forte tolérance vis-à-vis de ces différentes facettes.
Chapitre 5. Se sentir chez soi.
Je me sens chez moi, en fait, sur une page que j'ai créée.
Non mais... On marche sur la tête là quand on entend ça. Comment est-ce que un truc comme ça peut être une partie de vous-même et de votre identité ? Enfin, si, mais pas pour moi.
Je pense que je peux considérer tous ces comptes que je possède comme des parties de moi-même, mais j'avoue que je me sens pas confortable avec cette idée-là. J'ai une sorte de sentiment de méfiance envers les réseaux sociaux, sûrement parce que j'ai l'impression que ça prend plus de place dans ma vie que ça ne devrait.
J'ai déjà du mal à avoir une identité. Hors du réseau,
avoir une espèce de prolongement virtuel, etc. Très peu pour moi, quoi.
Donc, dès que je partage quelque chose, c'est effectivement un bout de moi-même à ce moment-là, puisque ça me touche. Mais du coup, il est sorti de son contexte et il vient s'ajouter à un ensemble d'informations sur ma page Twitter ou Facebook, par exemple, qui n'ont plus rien à voir les unes avec les autres. On arrive à un total un peu bizarroïde qui correspond plus du tout à l'image que vous voulez renvoyer au départ.
Chapitre 6. L'identité numérique prend son envol et devient autonome.
Le problème, c'est que ce que j'essaie de cacher transpire finalement de mes activités. Et le grand danger sur Internet, avec la protection de son identité, c'est que celui qui arrive à reconstruire une vue d'ensemble de mes activités, comme c'est maintenant possible avec ce qu'on appelle le big data ou le data mining, eh bien, il peut reconstruire et identifier certains des aspects que moi, j'ai souhaité cacher.
Je connais ton corps, mec.
C'est-à-dire que quand vous êtes un sociologue et que vous enquêtez sur les comportements sociaux, généralement, vous allez faire des entretiens, faire des sondages, etc. Et donc, vous recueillez du déclaratif, c'est-à-dire vous recueillez la parole des individus sur ce qu'ils disent qu'ils font. Alors que sur Facebook, étant donné qu'ils laissent des traces d'usage, vous pouvez observer directement ce qu'ils font.
Je me rappelle la première fois que je me suis mis à comprendre l'idée qu'il y avait un inconscient de mon identité numérique. C'était lors d'une conférence chez IBM, et il y avait quelques représentants qui parlaient du data mining. Et ce qui m'avait vraiment frappé à ce moment-là, c'était l'idée que je ne produisais pas une identité, mais j'étais le produit d'une identité possible. Autrement dit, j'avais pour première détermination le fait de laisser des traces, et ensuite on me déterminait à partir de ces traces que j'avais laissées involontairement et que je ne connaissais pas. Et je crois qu'il y avait cette idée de cette identité qui m'échappait complètement, qui m'avait vraiment marqué, une identité inconsciente produite par les données et par le numérique.
Bon, pourquoi pas ? Mais franchement, c'est de la merde.
Voilà.
Et pardon pour la grossièreté.
Ciao.
Hashtag politique, citoyen connecté, une production de Christophe Payet, stagiaire Colasibo. Merci à tous ceux qui se sont prêtés au jeu de ce numéro 50 spécial, entièrement contributif. Retrouvez Hashtag politique sur France Culture Plus, sur Twitter, en podcast sur iTunes et sur les applications de Radio France.
Je peux retourner sur Internet maintenant ?
Pas du tout, je suis désolé.